Private Equity Podcast. Je suis Antoine Sage et je vous propose de partager un thé avec les personnalités de l'écosystème du private equity. Sans langue de bois, chaque invité nous parle de son expertise, de son parcours et de sa vision du private equity. Chacun sa tasse de thé. GPs, LPs, régulateurs, prestataires et partenaires, avec le podcast Private Equity, toutes et tous sont les bienvenus tant qu'ils enrichissent notre vision du PE. Bienvenue dans notre podcast Private Equity dédié au PE. Nous recevons aujourd'hui avec plaisir Simon Eschen et Samuel Asraf, fondateurs et managing partners de Scale & Partner, que j'ai eu le bonheur de rencontrer en janvier dernier durant l'IPM à Cannes. Rencontre fortuite, comme seul l'IPM le permet, mais assurément heureuse car les parcours, expertise, vision et personnalité de Samuel et Simon sortent des sentiers battus et bousculent joyeusement notre industrie. Rendez-vous fut pris aujourd'hui pour enregistrer un épisode de notre podcast ensemble et nous y voici. Merci de vous prêter à cet exercice. C'est la première fois que nous sommes trois autour du micro et ça me semble pas mal.
Merci de nous recevoir.
Merci beaucoup.
Pour vous présenter en quelques mots, Simon, vous êtes diplômé d'un master en finance de l'école Audencia et d'Aston University et Samuel, vous êtes quant à vous diplômé de l'université de Concordia et de l'ESSEC en finance. Vous avez acquis tous les deux une solide expérience chez Rothschild & Co. Et vous vous êtes également rencontrés avant de vous lancer ensemble dans une aventure entrepreneuriale pour cofonder Scale & Partners. Décision heureuse car Scale & Partners s'impose aujourd'hui comme une banque d'affaires de référence, réputée pour son approche sur mesure et son excellence dans le conseil financier, et aussi comme un acteur clé du segment mid-market. Samuel, Simon, une nouvelle fois, très heureux de vous accueillir et bienvenue dans Private Equity.
Merci.
Commençons tout de suite par la genèse de votre aventure. Racontez-nous comment ce projet entrepreneurial s'est créé.
Je te laisse démarrer, Simon.
Ça s'est créé avant que ce soit une aventure entrepreneuriale. Ça a été une aventure amicale d'abord. Donc il faut retourner en, corrige-moi Sam, mais 2013.
Il y a 10 ans,
on s'est rencontrés tous les deux en stage dans une banque d'affaires qui s'appelle DC Advisory. Donc c'était Close Brother qui s'était fait racheter par une grosse banque japonaise Daiwa.
On s'en souvient.
Voilà, donc ça avait fait un petit peu de bruit sur le marché parce que les partenaires qui avaient repris cette boutique venaient de très grandes maisons, ils avaient un très beau parcours. C'est quelque chose que j'avais identifié et Samuel aussi, on s'était dit tous les deux sans se connaître à l'époque, tiens ça pourrait être un bon tremplin. Pour accéder ensuite à, tu parlais de Rothschild, donc c'était un objectif qu'on avait en commun aussi. Et je me souviens de cette rencontre parce qu'en fait, ça s'est fait très, très rapidement. Moi, Sam le raconte mieux que moi, ça, mais je vais m'y essayer. Mais il était déjà en place depuis quelques mois, je crois, peut-être 2 ou 3 mois. Et moi, je suis arrivé, et donc c'était mon premier jour, et tu te fais toujours un petit peu bizuter, etc. Quand t'arrives, ouais, tu vois, les gens regardent ton CV, ils se disent est-ce qu'il va être bon, est-ce qu'il va être pas bon, est-ce que c'est un plouc, est-ce que c'est quelqu'un qui va me faire de l'ombre. Donc, il y avait eu plusieurs paris sur moi, et puis, et Sam a une qualité très, très poussée, c'est qu'il a une très bonne analyse humaine des gens et assez rapide. Et je me souviens, tu m'avais attrapé le soir. En me disant, donc après ce premier jour, en me disant, écoute, tu viens d'arriver, je te dis un truc, j'ai une grosse ambition, là je suis dans le mid cap, mais mon but c'est d'aller dans le large cap, c'est d'aller travailler chez Rothschild, c'est de faire les grosses transactions très techniques. Et je sais pas pourquoi il me l'avait dit à moi, mais je lui ai dit, mais écoute, moi c'est exactement pareil. Moi aujourd'hui c'est un tremplin, je suis là pour apprendre, mais j'ai des gros objectifs, je veux que travailler, j'ai envie de, tu vois, on avait vraiment là cette verve et cette fibre, ouais, déjà très très marquée. Et donc en fait, honnêtement, ça a l'air un peu conte de fées, comme je le dis, amical, hein, je précise. mais dès le premier jour, on s'est retrouvé sur ces objectifs communs et sur cette ambition commune. Et après, on a fait tout ce stage ensemble et puis ensuite tout notre parcours.
Il raconte bien l'histoire, mais en fait, la réalité, c'est qu'on m'avait missionné pour découvrir et savoir si ce gars était sympa et allait bien s'intégrer avec nous. Et donc, on a commencé à parler ensemble sur une bouche de métro. Ouais. On a commencé à 19h à parler et on a fini à 23h. On s'est tout de suite bien entendu, on avait des personnalités tous les deux très différentes, mais avec un même objectif. Et en fait, l'amitié, ça a démarré par une amitié. On s'est un peu retrouvés par hasard ensuite à la fin de ce stage. Simon a réussi à intégrer Rothschild dans les équipes Large Cap de Rothschild. Et 6 mois après, je me suis retrouvé un peu par hasard aussi dans les équipes Large Cap de Rothschild, dans le même bureau. Là où Simon avait fait des pieds et des mains pour qu'on soit en face l'un de l'autre. Et effectivement, dès le départ, en fait, ça a été naturel entre nous. Ça a été évident dans le sens où on avait des objectifs communs, des personnalités différentes. Et je dois reconnaître que la genèse du projet de Scalene, elle est dédiée à Simon parce que c'est lui qui a eu une idée à 3h du matin un jour au bout de 3 années passées chez Rothschild. Ce qui est très jeune, hein, en fait. En réalité, on avait fait seulement nos classes d'analystes. Et il y a un mec un peu cinglé qui m'a attrapé à 3h du matin et il m'a dit « Écoute, j'ai une vision, j'ai une idée, je pense que tu es la bonne personne pour m'accompagner dans cette vision et dans cette idée, c'est de monter une banque d'affaires ensemble. » Et l'idée, c'était de se dire, ce qu'on a appris chez Rothschild dans Large Cap, on a un peu analysé le marché, on a un peu analysé la compétition, et on s'est dit, il y a certainement une place à aller choper sur le segment SMID. Toute l'excellence, toute la rigueur, toute l'envie, toute la détermination, toute l'exigence qu'on y met dans le Large Cap, on la retrouve pas forcément dans le small mid, en tout cas à l'époque. Aujourd'hui, c'est moins vrai, le marché s'est professionnalisé avec des gens de qualité d'ailleurs, avec qui on s'entend très bien, mais en tout cas à l'époque, c'était notre analyse, et on avait tous les deux quand même des qualités similaires, qui étaient des qualités où c'est un peu induit en nous, c'est-à-dire un vrai savoir-faire dans l'origination, ça s'apprend pas, et ça on l'avait naturellement, et en revanche, on avait envie justement de partager cette expérience, d'être auprès des entrepreneurs, parce que c'est ce qui nous animait. En tout cas, moi, à titre personnel, ce qui m'animait, c'était de parler aux entrepreneurs, d'être à leur côté et de revenir au métier de base, c'est-à-dire d'accompagner quelqu'un dans la durée et dans la longueur. Voilà. Et Simon est beaucoup plus rationnel, beaucoup moins intuitif que moi.
On se complète bien.
Voilà, donc lui, il avait une autre... Il avait très bien quadrillé le marché, analysé le marché. Donc en fait, les deux... Pour des raisons différentes, on s'est dit que c'était le bon moment pour le faire. Voilà.
Il y a deux choses dans ce que vous évoquez. Il y a une dimension entrepreneuriale.
Ouais.
J'aimerais la comprendre. Et il y a une deuxième dimension qui est le fait de se dire, ce job, je l'aime et j'ai envie de le faire différemment.
Oui, absolument. Mais en fait, tu résumes bien. C'était un peu la conjugaison d'une triptyque, le départ de Scalene. Il y avait cette velléité entrepreneuriale, celle-là, elle s'explique pas, on l'a ou on l'a pas, on a envie de créer, on a envie d'entreprendre, ou on se satisfait plutôt dans une aventure qui peut être intrapreneuriale à l'intérieur d'une société, en tant qu'employé, en tant que peu importe. Mais en tout cas, nous, et Samuel et moi, ça, c'est quelque chose qui se travaille pas. On l'a ou on l'a pas, il s'avère que tous les deux... On a vraiment ça dans le sang. Samuel vient d'une famille d'entrepreneurs. Moi, je l'avais aussi naturellement. Donc ça, c'est la brique numéro un. C'est la brique indispensable quelque part. Et ensuite, il y avait deux autres briques qui nous ont permis aussi ce déclenchement. Il y en a une qui est l'origination dont a parlé Samuel, parce qu'en fait, quand tu travailles chez Rothschild, le nom est tellement connu, alors surtout maintenant avec notre illustre président, c'est le deuxième président qui passe chez Rothschild, donc c'est un nom commun, en fait, tout le monde connaît dans la rue. En fait, beaucoup plus que Morgan Stanley, Goldman Sachs, qui, tu vois...
Non, c'est top of mind, et surtout en SMID.
Bien sûr, et très en France. Donc en fait, on s'était aussi rendu compte sur le sujet d'origination que tu as beaucoup de gens autour de toi qui disent « Ah bah tiens, toi qui bosses chez Rothschild, j'ai telle ou telle question, j'ai telle ou telle problématique. » Alors, tu as forcément un peu de déchet là-dedans. Tu as le mec qui te dit « Tiens, ils mettent trop de temps à me remplacer mon chéquier, est-ce que tu peux m'aider ?» Tu dis « Alors non, c'est pas ce banquier-là que je suis, c'est le même nom, mais c'est une autre catégorie. » Et après, tu as des blagues à part, tu as des discussions beaucoup plus intéressantes avec des entrepreneurs qui se posent des questions de succession, de « je me suis fait approcher par mon concurrent, quelle est ma valo ? Est-ce que je peux aller chercher de la dette sur tel ou tel projet que j'ai à l'international ?» Donc, on s'est dit, un, on a les velléités entrepreneuriales, oui. Deux, on se rend compte qu'il y a des gens qui nous posent des questions. Donc, si jamais on se lance, déjà, ça nous fait un petit fonds de commerce, déjà, de traiter ces calls entrants, quelque part. Et trois, après, c'était toute l'analyse, je te paraphrase un peu ça, mais c'était toute l'analyse rationnelle de dire est-ce qu'il y a un segment de marché qu'on pourrait adresser d'une manière à ce qu'on ait une concurrence qui soit limitée sur ce qu'on propose. Et en fait, ce qu'on avait identifié à la base, c'est ça. C'était de se dire la qualité, l'exigence qui était demandée dans les équipes du large cap. On s'est dit ça, on le voit moins dans les équipes small et mid qui ont plus une stratégie de volume, mais c'est tout naturel. Hein. Quand tu baisses en taille de transaction, bah, t'en augmentes le nombre. Et puis nous, dès le départ, on s'était dit, on limite le nombre, on essaye d'aller chercher un taux de succès idyllique de 100%, et ce sera ça notre proposition de valeur. Et donc c'est là-dessus, en fait, qu'on a lancé Scalen en 2017.
Malgré nos différences, en fait, Simon et moi, on a une vision long terme sur tout ce qu'on fait. Et donc dès le départ, on s'est dit, on va construire une marque. Ça prend du temps, on va être patient. L'avantage, c'est qu'on se crée jeune. Donc en fait, si tu veux construire quelque chose de pérenne dans le temps, bah, mieux vaut le faire jeune. Et c'était ça l'objectif, et de se dire on va grossir avec nos clients. Ça a été notre pari dès le départ, de dire on va identifier les bons entrepreneurs. Ils vont nous choisir et on va les choisir. On va prendre du temps pour les choisir.
Ouais, y a un vrai match.
Exactement. Et une fois qu'on s'est choisi, entre guillemets, on a plein de belles histoires. Hein. Il y a beaucoup d'histoires qu'on suit depuis maintenant. Ben, ça fait 7 ans qu'on s'est créé et qu'on a vu grossir. On a vu passer de société. Je prends les secrets de Loli comme exemple. Quand on a commencé à l'accompagner, elle faisait à peine 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, un peu moins. Aujourd'hui, elle va en faire plus d'une trentaine. On a commencé à accompagner le roi logistique, qui est une magnifique société en Bretagne, qui faisait un peu moins de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ils vont faire 300. Et en fait, on a voulu s'inscrire dans le temps et de se dire, on va être un conseil de long terme. On va être là pour nos clients, mais pas uniquement lors de la transaction. On va être là avant, on va être là pendant, on va être là après. Et c'est comme ça qu'on va se construire une réputation, qu'on va construire une marque et qu'on va construire une marque un peu différente de ce qui existe dans Paris.
Et je comprends que c'est ce qui, tous les deux, vous motive beaucoup. Est-ce que vous n'auriez peut-être pas eu dans une autre maison, où vous n'auriez fait qu'enchaîner les transactions et cette question de relation au long cours vous semblait moins possible ?
C'est exactement ça. En fait, nous, ce qui nous anime, c'est d'avoir une vision très long terme. Ce qui nous anime, c'est d'être vraiment l'oreille du dirigeant ou l'oreille des fonds d'investissement avec qui on travaille, parce qu'aujourd'hui, on travaille avec pas mal de fonds d'investissement, dans le sens où, en fait, on a un canal, un espèce de sparring partner pour ces gens-là. Et alors on a des convictions, on les assume, et je pense que c'est ce qui fait aussi notre différence avec Simon, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur de s'opposer à nos clients quand on pense qu'ils vont dans le mur. On se trompe parfois, mais en fait la réalité, c'est qu'on a une vision très claire et une forte conviction, et c'est, je pense, que ce que les gens viennent chercher chez nous.
Mais là où tu as raison, c'est qu'il y a un vrai côté, enfin, ce qu'on aime, c'est aussi le rapport humain, parce que tout ça, c'est très humain. Et en fait, Ce qui nous a frustrés, mais c'est, là je parle vraiment à titre personnel pour Samuel et moi, c'est que surtout dans le large cap, tu fais des méga deals à plusieurs milliards. Donc avant d'être réellement au contact et d'être dans la stratégie du deal, il faut vraiment du temps. Et nous, c'est quelque part cette impatience aussi qui nous conjuguait avec l'esprit entrepreneurial qui nous a poussé à nous lancer. Moi, je me souviens de réunions où... t'as bossé sur le book, t'as passé des nuits et des nuits et des nuits sur le modèle, t'es dans ta réunion, puis tout d'un coup, le partner sort en disant « Attendez, le client m'appelle, mais en fait, moi, c'est sur ce call-là que je veux être. » C'est là que je voulais entendre. J'ai envie de lui dire « Non, mais reste, mets-nous en haut-parleur, c'est là que c'est intéressant. » Et en fait, ça, tu l'avais pas.
Ouais.
Donc, on l'a fait tôt, comme le disait Samuel, et puis c'était un vrai pari, mais je pense que c'est ce que voient nos clients aussi. C'est à quel point on aime profondément ce métier, et l'aventure humaine, faire en sorte de faire se réaliser des aventures entrepreneuriales, être aux côtés de nos clients pour accélérer leur croissance et pérenniser leur réussite, c'est un bonheur.
Mais ce que dit aussi votre expérience, en tout cas vos témoignages, c'est que là, on pourrait s'imaginer que les clients exigent d'avoir beaucoup de cheveux gris autour de la table. Ben, c'est pas vrai. En tout cas, dans vos cas.
Ça a été une difficulté.
C'est marrant ce que tu dis, parce que je me souviens quand j'ai annoncé à certains de mes amis que j'allais créer ma banque d'affaires, et certains mentors qui m'ont accompagné et qui m'accompagnent toujours, même les gens les plus bienveillants, je me rappellerai toujours d'une personne qui m'a dit « Mais Samuel, en fait, ton histoire ne peut pas marcher, parce que pour réussir une banque d'affaires, il faut avoir des cheveux gris et un réseau. Est-ce que tu as les deux ?» Ou au moins un des deux. Moi, je viens de Nice, Simon vient des Vosges. On a fait 3 ans chez Rothschild à l'époque. Et pour ceux qui connaissent Rothschild, les trois premières années, c'est pas les années où tu sors le plus et où tu fais du relationnel. C'est plutôt celle où tu es à la cave et tu fais des modèles.
Et tu rames. Ouais.
Et tu rames, mais c'est des années très formatrices et c'est une très belle maison. Et en fait, non, on n'avait pas les deux, mais on avait vraiment déjà des convictions. On avait vraiment une envie d'entreprendre et on avait une envie d'accompagner les entrepreneurs. Et d'ailleurs, en fait, le maître mot chez Scalen, c'est la transmission quelque part. Que ça soit auprès des clients ou auprès de nos équipes, on essaye de transmettre au jour le jour cette motivation, cette force de conviction et cette énergie qu'on a l'un et l'autre de manière différente, mais avec le même objectif qui est un objectif d'excellence et de réussite.
Donc là, on comprend le contexte, ce qui fait que vous quittez cette très belle maison. Et en termes de formation, c'est incontestable, c'est une qualité remarquable. Vous sortez, vous choisissez un nom. Comment vous trouvez votre premier client? Comment ça se passe, ça?
Bah écoute, les premiers clients, honnêtement, c'est compliqué. Hein. On avait eu une stratégie initiale qui était de se dire, je pense que comme tout business, hein, là, ça n'a rien à voir avec la banque d'affaires ou la finance, mais on a regardé vraiment autour de nous, amis, famille, en se disant, est-ce que là, il y a quelqu'un qu'on peut aider pour amorcer la pompe quelque part. Et donc, on a eu une première opération pas loin de chez toi à Nice et puis une autre dans les Vosges sur des gens qu'on connaissait bien et qui nous ont mis un peu le pied à l'étrier. Et ensuite, tu vois, le fait d'être jeune, notre premier gros client, ça a été un jeune aussi, et en la personne de Frédéric Arnault. Et donc ça, c'est un peu la magie de notre départ et le petit coup de pouce initial, c'est qu'on s'est vite retrouvé un peu parachuté sur ce gros pitch qu'organisait LVMH. Et oui. C'était un avocat à l'époque avec qui on avait travaillé sur les deux premiers dossiers qui nous avait dit il y a un pitch qui s'organise. Et puis par chance, c'est Frédéric Arnault qui le lead. Donc vous êtes jeune, il est jeune, vous devriez y aller. Et donc on y a participé avec Samuel et on a ensuite remporté ce pitch et on a passé quasiment toute l'année 2018 à travailler pour le groupe LVMH dans le cadre d'une mission. Et c'était absolument exceptionnel. Vraiment, c'était une aventure aussi humaine, vraiment, vraiment incroyable, parce que c'était un projet complexe qui sortait des sentiers battus et qui a mis à contribution à la fois des qualités de financiers, mais aussi stratégiques et fiscales et juridiques. Il y avait beaucoup de complexité dans ce deal, mais il était très complet. Et en fait, je le raconte parce que ça a été un petit peu notre kicker, un peu notre coup de pouce du départ. On a su le saisir. Et c'est après, suite à ce deal-là qui était un petit peu exceptionnel, qu'on s'est recentré sur des fusions-acquisitions un petit peu plus classiques. Mais on avait ce gros tombstone, comme on dit nous, donc transaction réalisée derrière nous, avec un nom que tout le monde connaît et puis une opération qui s'était bien passée. Donc le début de Scalen, il était vraiment épique.
Non, mais dans toute histoire, il faut un coup de bol.
Oui.
Il faut la provoquer aussi, hein, évidemment. On n'a aucune fausse modestie là-dessus, mais on a quand même eu un coup de bol de voir des gens qui ont été bienveillants envers nous et qui se sont dit ces gars-là sont bons ou en tout cas ils ont quelque chose. Et c'est pour ça qu'ils nous ont mis en relation avec LVMH, notamment Frédéric Arnault. Le fit a été là immédiatement. C'était un projet à près de 500 millions, donc tu vois, c'était quand même quelque chose d'assez conséquent. Et moi, je m'en souviens parce que j'avais été marqué. 6 mois avant, j'avais bossé chez Rothschild sur un dossier où même le partenaire n'avait pas forcément le droit de rencontre du board, tu vois. Donc, et nous, 6 mois après, on se retrouvait tous les mois avec le board, tous les mois et demi avec le board LVMH. Et en fait, c'est formateur parce que quand tu te crées, tu as quand même toujours ce syndrome d'imposteur. Et en fait, tu te dis toujours, est-ce que je suis vraiment à ma place? Et le fait d'être tout de suite exposé à des niveaux de responsabilité hyper importants, ça te permet de voir que même confronté à du très haut niveau, tu étais capable de répondre et de répondre correctement et de satisfaire les clients, ce qui est, quand on se lève le matin, Simon et moi, c'est vraiment notre but ultime. Et donc en fait, ça a lancé Scalen, et deux, ça nous a permis nous-mêmes de moins avoir ce syndrome de l'imposteur, je pense. On l'a toujours un peu, tous évidemment, mais en tout cas de se dire on est crédible. Et en fait, notre proposition de valeur est vraiment là, elle est vraiment différenciante et maintenant on peut l'écrire intelligemment.
Mais ce que j'entends aussi dans ce que vous évoquez, c'est que l'humain, C'est-à-dire qu'en définitive, ce métier, comme on voit, ce métier qu'on peut percevoir comme étant un métier éminemment technique, de négociation, et avec une forte préparation, vous cherchez l'humain, vous cherchez ce contact, et c'est justement ce qui vous permet, c'est ce que vous trouvez très tôt, et c'est ce qui vous permet de réaliser que la partie technique est sèche, c'est-à-dire que vous êtes compétent en la matière, vous avez été bien accompagné, bien formé, ça vous le maîtrisez, et l'humain fonctionne.
La partie technique, c'est un prérequis. Si tu l'as pas, tu peux pas faire ce métier. Tu vois. Donc, quelque part, toute personne qui est normalement constituée assez intelligente est capable de vite acquérir cette technicité. La réalité, c'est que ce métier est bien plus complexe que juste la partie technique. C'est ce qui me plaît dans ce métier, tu vois, c'est qu'il y a, une part de psychologie, il y a une part de compréhension de l'environnement, il y a une part de compréhension tactique, de compréhension des enjeux. Quand tu conseilles un entrepreneur ou même un fonds d'investissement, il y a beaucoup de ressorts à mettre en place et il faut comprendre ton environnement. Si tu ne comprends pas ton environnement et les attentes réelles de la personne en face,
ça
ne fonctionne pas. Et en fait, c'est ce qui nous plaît à Simon et moi. Hein. Enfin, je parle à ta place, Simon, mais ce qui nous plaît, c'est de comprendre cet environnement, de le maîtriser pour pouvoir positionner nos dossiers à l'achat, à la vente. On reviendra après dessus, mais de la meilleure manière des possibles et surtout de pouvoir rendre nos clients contents.
Ouais.
Et quand je te disais tout à l'heure, on a une force de conviction, ça nous est très souvent arrivé de contredire nos clients sur des velléités de départ. Des clients viennent nous voir en nous disant « je veux faire ça ». En fait, nous, on regarde et on place la feuille un peu différemment et on essaye de la regarder différemment et de dire « non, en fait, c'est pas exactement ça que tu as besoin ». C'est plutôt de positionner le dossier d'une autre manière. Tes attentes, c'est pas forcément celle-là. Donc très souvent, un client un jour nous a dit « Vous êtes des banquiers, mais vous êtes aussi des faiseurs de projets ». Et c'est un petit peu ce qui nous caractérise, de voir le monde un peu différemment.
Mais je pense que pour compléter globalement le métier, pour moi, c'est que de l'humain. En fait, je trouve que c'est un mauvais angle de l'analyser à travers la technicité. Comme l'a dit Samuel, c'est la condition sine qua non pour faire le métier. Tu ne peux pas te différencier sur la technique, en fait. En tout cas, je connais, moi, aucun banquier d'affaires qui fait une erreur ou tu vois, qui fait un modèle faux, qui sait complètement. À ma connaissance, il n'y en a pas. C'est un niveau. Et d'ailleurs, ce n'est pas si technique, je veux dire. Il y a de la technique. Et puis, pour le commun des mortels, forcément. Mais comme pour moi, un autre métier est très technique. Comme pour moi, faire du pain, c'est pour être très technique. Là, une fois que tu es dedans, ce n'est pas si technique. Et je pense qu'à la fin, il ne reste que l'humain. Nous, au début, on a beaucoup aussi joué sur cette carte. On l'avait au fond de nous, mais c'était aussi notre seul axe différenciant. Tu vois, à un moment donné, il faut aussi convaincre l'entrepreneur. Il faut qu'il te choisisse. Et je le vois même, une bonne illustration de ça, c'est les clients qu'on accompagne. Je peux te donner des dizaines d'exemples de dirigeants qui ne prennent pas l'offre la plus haute à la fin, qui ne regardent pas que les chiffres et qui se disent « mais attends, évidemment, il ne faut pas que les offres soient l'une au double de l'autre ». Mais on a énormément d'exemples de clients qui nous disent « en fait, je m'entends bien avec cette personne, je me vois bien associé avec lui, j'ai envie de le voir à mon board, il m'a inspiré, il comprend ma stratégie ». On échange bien, je trouve que c'est intéressant les idées qu'il me propose et donc je le prends et j'oublie le côté économique et nous on essaye de pousser ça avec Samuel et c'est un truc qu'on essaye aussi de développer chez nos clients en disant attention tu t'associes, c'est avant tout une histoire d'homme, on va s'occuper des chiffres, on va s'occuper de la technique, on va s'occuper des questions, on va s'occuper des audits, de l'intégralité du process et nous on veut qu'ils se concentrent sur quel projet on construit, tu vois. On explique toujours à nos dirigeants attention, une opération de LBO c'est pas spot, c'est pas on fait ton opération, au closing c'est fini, au closing ça commence. Et ça c'est important qu'ils comprennent ça. Le closing c'est le début. On lui dit qu'est-ce que t'es en train d'écrire maintenant pour les 5 prochaines années. C'est pas une fin en soi. Donc on essaye aussi qu'ils soient dans ce type de mindset pour que ensuite l'histoire dont parlait Samuel initialement où nous on suit nos clients dans la longueur, c'est tout le travail qu'on fait en amont sur l'opération qui fait que ça va bien se passer ensuite. Et qui est une opération qui va tourner plus vite qu'une autre ou qu'on va se faire rappeler à la fin. Si c'est pour faire juste le coup, ensuite disparaître et que l'association se passe mal, nous, quelque part, il n'y a pas de repeat business et c'est un mauvais calcul économique aussi. Donc, on s'y retrouve. C'est nos qualités internes et puis les valeurs qu'on a qui font qu'on essaye de transformer un métier qui pourrait être perçu comme un métier de coût ponctuel. Je fais cette opération, rendez-vous dans 5 ans. Exactement.
Oui.
Et nous, on le fait plutôt sur des histoires à long terme, des histoires d'entrepreneurs.
Alors, si on se résume, qu'est-ce qui vous différencie réellement sur le marché et en quoi vous n'êtes pas une banque d'affaires comme les autres ?
C'est un peu tout ce dont on vient de parler là. On essaye de garder... un tronc commun qu'on a appris notamment chez Rothschild et des bases du métier. Il faut pas non plus, on n'est pas là pour disrupter, on se présente pas du tout comme des disrupteurs de la banque d'affaires, mais on essaye d'apporter notre patte. Et donc l'angle très humain dont on se parlait, ouais. Le repeat business aussi, les équipes aussi, bah c'est plutôt Samuel qui s'en occupe, mais les profils qu'on recrute, tu vois, typiquement, nous, si tu regardes nos offres, on dit jamais on veut l'expert financier ou celui qui a fait 3 stages en M&A avant. Nous, on veut une tête bien faite. On veut quelqu'un qui a envie d'apprendre,
ouais.
Qui est passionné par ce métier. Et après, s'il lui manque des qualités techniques, il va les apprendre. Ça, c'est pas grave, mais on n'arrivera pas à transformer un technicien en un amoureux du métier. En revanche, un amoureux du métier en technicien, ça, on sait le faire.
Ça, vous savez le faire.
Donc, c'est important pour nous qui partagent nos valeurs et on passe beaucoup de temps, honnêtement, sur le recrutement. C'est clé chez nous et on est assez fiers des équipes qu'on a et c'est même les stagiaires qui passent, qui rentrent dans des belles maisons ensuite. On essaye de donner une bonne formation et on essaye de trouver des gens qui partagent le côté... encore une fois, le côté humain de notre approche. Nous, la meilleure façon de le résumer, c'est que pour nous, faire une stratégie de valeur plutôt qu'une stratégie de volume, c'était vraiment une évidence. Parce que si tu te dis, je fais une stratégie de volume et il y a certains dossiers que je ne vais pas sortir, nous, on ne le voit pas comme ça. On ne se dit pas, bon, ce dossier...
Mais ce n'est pas ce pourquoi vous êtes sorti, ouais. C'est pas ce pourquoi vous êtes associé.
On ne se dit pas, bon, ce dossier n'est pas sorti, ce n'est pas très grave. Les 10 autres sont sortis, il y en a un qui n'est pas sorti. Ah non, ben non, parce que c'est la vie du mec, tu vois. Tu ne fais pas une opération tous les 6 mois. C'est très, très important. Donc, en fait, tu as un niveau de responsabilité que Samuel et moi, on apprécie vraiment, tu vois. Tu te dis, c'est... On le voit de toute façon, hein, les gens sont c'est stressant de faire une opération. On voit que quand ils signent avec nous, ils nous regardent dans les yeux, ils nous donnent les clés du camion. Ils nous disent, voilà, maintenant, moi, je me lance. Je ne ouais. connais pas. C'est ma boîte, c'est ma vie. Parfois, quand c'est le cas d'une transmission, t'as des dirigeants qui ont bossé 40 ans, ça y est, c'est l'OP.
Qui ont 3 générations derrière eux.
Ouais.
C'est une charge.
C'est une fois son opération, il te donne les clés et il te dit « vas-y, je te fais confiance ».
Je pense qu'on ressemble à beaucoup de banques d'affaires dans les aspects classiques du métier. C'est-à-dire que,
ça, vous le faites bien.
Ça, ouais, voilà. Mais là où on se différencie, il y a peut-être un point, c'est de revenir sur la base de ce que je disais tout à l'heure. C'est on a une vision long terme de notre métier. Donc la vision long terme, c'est une vision de conseil. On est des gens qui faisons du conseil. Ouais. On est auprès des dirigeants, on est auprès des entrepreneurs, on est auprès des fonds sur le long terme. Donc il y a 3 axes principaux chez nous. C'est 1, l'excellence, parce que c'est ancré en nous. On a ça, et Simon et moi, on a toujours été exigeants envers nous-mêmes, on est exigeants envers nos équipes, on est exigeants envers nos clients. Mais on sait pourquoi on est exigeant. La deuxième chose, c'est qu'on essaye de s'inscrire dans le long terme. On ne perçoit pas une relation juste sur 6 mois ou 9 mois, le temps d'une opération. On la perçoit sur 5, 10, 15 ans. C'est ce qu'on espère faire. Ouais. Et la troisième, c'est en correspondance avec les 2 premières, c'est une forme de loyauté et d'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire qu'on ne travestit pas nos pensées, on a des convictions pour nos clients. On échange avec eux, mais on essaye d'être loyaux envers eux. Et pour être loyal, il faut être honnête intellectuellement.
Sam, est-ce que tu réalises que tout ce qu'on vient de se dire, je pense, est diamétralement opposé à la perception que quelqu'un qui ne connaît pas cet environnement et ce métier précisément pourrait avoir comme opinion, comme préconception concernant ce job?
Oui, c'est vrai ce que tu dis. Et très souvent, on a eu des entrepreneurs régionaux, alors autant te dire que quand tu vas en région et que tu es parisien, même si on n'est pas parisien natif, mais tu es vu tout de suite comme le financier qui est passé chez Rothschild,
Et tu arrives avec un costume.
Ouais, tu arrives avec un costume, mais on déconstruit très vite cette idée, parce qu'en fait, tu sais, je pense que l'honnêteté, ça se ressent, la transparence, ça se ressent, et donc très vite, quand tu commences à échanger avec les entrepreneurs, ils ressentent qu'on est à leur côté. Et même les fonds d'investissement, je vais te dire, tu sais... les fonds d'investissement aussi s'inscrivent dans des histoires humaines. Tu vois, c'est ce qui nous plaît. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on travaille énormément avec les fonds de private equity. On y reviendra après. Mais un fonds d'investissement, et c'est ce qu'on essaye d'éduquer nos clients, la première chose dans laquelle il investit, c'est pas l'actif, c'est les gens aussi. Et donc, en fait, quelque part, c'est là où on se retrouve avec eux. Et donc, il faut, pour aller dans l'excellence, il faut comprendre les gens, il faut sentir les gens et il faut comprendre leurs besoins. Donc, tu as raison, c'est contre-intuitif à la pensée collective.
Ouais.
Mais en fait, en réalité, c'est ça le fondement de notre métier, c'est du conseil. C'est de la loyauté, c'est de l'exigence et de l'excellence.
Mais là où tu as raison, c'est que c'est beaucoup de pédagogie. Hein. Quand nous, notre métier, c'est aussi ça. Et surtout, on a beaucoup de deals primaires. Donc nous, on a beaucoup de clients qui n'ont jamais fait d'opération avant. Donc c'est des entrepreneurs, bon, forcément à succès, parce que c'est des candidats des opérations de LBO. Donc c'est des sociétés qui fonctionnent bien, des gens que tu imagines forcément très intelligents. Et donc, ils ont en plus envie de comprendre. Donc déjà, il faut expliquer notre métier. Et puis, je trouve ta remarque excellente, parce que c'est vrai que on pourrait penser de but en blanc que c'est plutôt à l'opposé du spectre que ce dont on vient de se parler. Donc d'abord, il faut rétablir la vérité. Et ensuite, il faut à chaque étape expliquer, parce que c'est des gens qui ne veulent pas être dans le flou. C'est des gens qui veulent comprendre ce qu'on est en train de faire, pourquoi on met tel niveau de levier sur l'actif, pourquoi on fait un dual track ou pas, pourquoi on a donné tel document en phase 1, tel document en phase 2. Tu vois, c'est... Tu peux pas dire, les enjeux sont trop importants pour que tu dises à ton client, t'inquiète pas, laisse-moi faire, rendez-vous dans un mois, je t'amène les offres sur la table.
Ça se co-construit.
Mais Simon utilise toujours l'anecdote, j'aime bien l'utiliser, c'est quand il parle avec des clients, il lui dit, en fait, j'ai réussi mon métier, si à la fin de l'opération, et même avant la fin de l'opération, tu peux prendre ma place et je peux prendre la tienne. Ça veut dire que
oui.
Tu as compris mon métier et moi, j'ai compris ta société en profondeur. Et en fait, c'est ça la réalité du métier. Tu le fais bien quand tu le fais comme ça. C'est-à-dire quand tu fais de la pédagogie, quand tu ne laisses pas les entrepreneurs ou les fonds dans le noir et que tu co-construis avec eux. La co-construction est essentielle à la réussite de toute opération.
Alors justement, le private equity dans cet environnement et chez Scalen aujourd'hui, c'est quoi?
C'est une part importante. Hein. Honnêtement... On fait beaucoup, beaucoup d'opérations avec des contreparties de fonds d'investissement. Il y a eu plusieurs étapes dans la vie de Scalen, mais si je résume aujourd'hui où on en est, aujourd'hui, on est une maison sell-side, évidemment, puisque l'année dernière, on a fait un peu moins d'une quinzaine d'opérations. Et sur cette quinzaine d'opérations, 70%, c'était du sell-side. Mais on est aussi une maison buy-side et on est aussi une maison de financement. C'est plutôt Simon qui s'en occupe. Et la particularité de Scalen, quelque part, c'est de faire beaucoup d'opérations avec des contreparties de private equity. On conseille les fonds d'investissement, on conseille les entrepreneurs. On ne fait pas énormément d'opérations avec les corporate, pure corporate et pure industriel. Pourquoi ? Ben, en fait, c'est assez simple. Quand tu fais une opération avec un industriel, quelque part, ça ne s'inscrit pas dans ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Tu ne peux pas construire une histoire sur le long terme.
Voilà.
Et donc aujourd'hui, oui, nos clients sont les entrepreneurs, sont aussi les fonds d'investissement. Ça doit représenter à peu près 80-90% de notre portefeuille de deal.
En termes de territoire, on est à Paris, au 50e étage de la tour Montparnasse. Ce monde est à vous.
Avec une vue éblouissante.
Incroyable. Il faut que tu passes ce podcast en mode vidéo, parce que franchement, c'est assez impressionnant.
C'est un projet. Donc, ça s'arrête où, là ?
Bah, écoute, honnêtement, on n'est pas spécialement attaché à Paris. On n'est pas des Parisiens. Il s'avère que le gros marché du private equity, il est quand même ici. Tous les fonds sont ici. Donc, par la force des choses, évidemment, on a nos contreparties ici. On a quelques clients entrepreneurs, mais ça représente pas la majorité. Si on parle de l'entrepreneur, ça en a vraiment en France, un peu partout en France. En revanche, les contreparties, oui, c'est vraiment les fonds et donc souvent les fonds parisiens. Donc on va dire qu'on est très français. On a fait pas mal de deals dans l'Ouest, par exemple. T'as cité Leroy Logistique, on en a eu 3 ou 4 dans la région de l'Ouest qu'on aime bien, qui est très dynamique. On en a fait dans l'Est aussi, on en a fait dans le Sud-Est. On se donne pas vraiment de limite d'ailleurs, ni territoriale et ni sectorielle. On a toujours été des banquiers généralistes, donc on travaille sur tout type de typologie d'actifs, même si on a des verticales qui sont un petit peu plus marquées. On a fait beaucoup de santé, on a fait beaucoup de consumers. On a fait pas mal de brokerage, FIG. Donc voilà, je dirais que généraliste à la fois sur les secteurs et sur les régions.
Au-delà des frontières ou pas ?
Pas encore, mais...
À choisir, enfin, c'est le... tu vois dans le regard de Sam, là, ce que... les gens pourront pas le voir, parce que encore une fois, on n'est pas en vidéo, mais ouais, il y a des vraies réflexions. En tout cas, si on serait plus à ouvrir à Londres qu'à Lyon, tu vois. Je te dis pas que c'est cette ville-là qu'on target, mais dans l'esprit, ce serait plutôt aller trouver une deuxième capitale que faire une deuxième ville. On trouve qu'il y a des dynamiques qui sont intéressantes. Tu vois, le nord de l'Italie est intéressant, l'Espagne est intéressante, les UK sont intéressants pour différentes raisons. Et je pense qu'il y a des belles choses à faire aussi, avec peut-être d'abord avec, dans le cadre d'un partenariat, et puis ensuite nous, avec une implantation. Mais voilà, ça, c'est des visions stratégiques moyen terme. Mais bien sûr que ça
trotte dans un coin de notre tête.
Ça vous titille. En termes de stade de développement d'entreprise ou de taille, vous avez aussi des tentations particulières ?
Honnêtement, on se donne pas de limite en termes de taille. On a toujours été en croissance depuis qu'on a créé Scalen, en forte croissance même. Et je touche du bois. Enfin, on se donne les moyens pour que ça se maintienne. Ce qu'on essaye de faire, c'est quelque chose de maîtrisé, parce que si tu te dis, on a fait 15 opérations l'année dernière. Et Sam et moi, on serait ravis d'en faire 30 l'année prochaine. Mais dans ce cas, il faut qu'on fasse rentrer d'autres associés. Tu vois, on essaye de garder ce côté sur mesure et forte implication dans les dossiers. On ne veut pas croître à tout prix et à n'importe quel prix. Donc l'idée, c'est plutôt d'essayer de faire les choses tranquillement et de manière sécurisée pour, encore une fois, avoir... s'assurer de la pérennité. On n'est pas des fous de la croissance, on n'a pas... C'est pas ça qui nous drive. Ce qui nous drive, c'est bien faire notre métier, asseoir notre réputation, faire en sorte que nos deals soient bien exécutés, que nos clients deviennent des ambassadeurs, que nos contreparties nous fassent de plus en plus confiance.
Que les équipes montent en compétences.
Absolument, aussi en interne. Et, ouais. Et il est plus là l'intérêt que la course au deal, la course au chiffre d'affaires. Honnêtement, ça pourrait paraître fou ou même bête, mais c'est vraiment secondaire chez nous, parce qu'on se dit que si on continue de bien faire le métier, on aura cette croissance naturelle. Tu crées une inertie qui fait que finalement, tu as une croissance organique naturelle année après année.
Ma question était aussi en termes de taille de deal, parce que vous êtes parti sur le SMID. Puisque vos bases aujourd'hui sont solides, vous êtes au travers des recrutements que vous pouvez, de l'animation de vos équipes, de l'accompagnement de vos clients grossissent, donc peuvent sortir du spectre du SMID, et on leur souhaite d'être au-dessus. Mais vous avez aussi des structures plus jeunes. Est-ce que ça fait partie des choses qui vous titillent un peu ?
En fait, on y vient naturellement. Si je fais la rétrospective de Scalen sur les 7 dernières années, au départ, je mets de côté LVMH, évidemment, mais qui est le plus gros entrepreneur français. Mais on y vient naturellement. Au départ, on faisait des petites opérations. Nos clients grossissent, on grossit avec eux. Quelque part, il y a eu 3 phases chez Scalen. On a fait du 0 20 millions d'euros. Ensuite, on a fait du 20 50. Aujourd'hui, on est plutôt sur du 50 200. Donc, on n'est pas obsédé par la taille, peu importe la taille des deals. Effectivement, naturellement, les années passent et nos deals grossissent, les tailles de deals grossissent. Les acteurs nous appellent, voient qu'on monte sur des segments de plus en plus importants. Effectivement, un segment cible serait d'être sur le segment 100-500 millions d'euros. Ouais. Mais en fait, on n'a pas de cible, vraiment. Si on trouve un entrepreneur qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a une capacité à aller à 1 milliard, c'est ça qui nous anime. Et donc, en fait, quelque part, après, si on a fait le bon pari, on va accompagner des entrepreneurs qui auront des sociétés qui valent, 500 millions, 1 milliard, 2 milliards. Et donc, naturellement, on sera sur ce segment. Quelque part, la course à la taille n'est pas intéressante, c'est surtout les histoires qu'on écrit. Mais tu as raison. Aujourd'hui, les deals qu'on traite, ce n'est pas les mêmes deals qu'on traitait il y a 5 ans. On se pose des questions d'ailleurs, parce qu'on veut rester au contact des plus petits deals, ça nous intéresse. Maintenant, notre flux entrant est un flux entrant. Vraiment, aujourd'hui, on est entre le 50 et 300. Donc, quelque part, la taille est secondaire dans notre vision, même si naturellement, on est plus catégorisé aujourd'hui entre 50 et 300 millions d'euros. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt où est-ce qu'on amène nos clients. On a aussi de plus en plus des clients qui sont des fonds d'investissement, bah, parce qu'ils ont vu la manière dont on travaille. Je pense notamment à Coolvest, je pense notamment à Benel, je pense. On les accompagne de plus en plus, plus en plus régulièrement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, construire une organisation sur le long terme est plus intéressante que la taille à proprement parler, en fait.
On peut parler de course au match, c'est-à-dire d'avoir une quantité de, justement, revenir sur cet humain, de choisir ce que vous accompagnez, que ce soit du côté du fonds, des fonds ou du côté des entrepreneurs et accessoirement des corporates, mais vraiment conserver cette ligne directrice-là.
Ça sera toujours l'ADN de Scalen. Et d'ailleurs, Simon le résumait bien, on est ambitieux, on ne se le cache pas. On essaye de transmettre cette ambition aux équipes. Tout à l'heure, Simon parlait des équipes. Le plus important quand on recrute quelqu'un, c'est des gens qui ont la tête bien faite, qui sont intelligents, qui réfléchissent, qui savent réfléchir différemment et qui ont une ambition importante. Aujourd'hui, se pose évidemment la structure grossie. Se posent évidemment les questions de recrutement par le haut aussi. On rencontre beaucoup de monde sur des segments différents. Je prends un exemple, aujourd'hui, on se pose des questions sur la tech notamment. Mais on ne fera rentrer chez Scalen que des gens qui sont ADN compatibles à Scalen, c'est-à-dire qui ont une vision d'excellence.
Qui a une adhésion réelle.
Mais bien sûr, parce que je pense que le secret de la réussite des belles maisons de la place parisienne, et d'ailleurs le secret de la réussite de toute entreprise, parce qu'on parle de la banque d'affaires, mais une banque d'affaires, c'est une entreprise.
Avant tout.
Et donc c'est l'humain qui prime avant tout. Et pour que l'humain prime et pour qu'une entreprise grossisse dans son ensemble, pas qu'une question de taille, mais dans son ensemble, il faut qu'il y ait une adhésion, il faut qu'il y ait un projet commun, il faut qu'il y ait des valeurs communes. Et ça, Simon et moi, on a toujours été très, très, très attentifs. Au départ, on recrutait que des stagiaires, ensuite des analystes, aujourd'hui des VP et certainement des associés. Mais on fait très attention à cela parce que je pense que c'est ce qui fait la réussite, ce qui fera la réussite de demain, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des fondations solides et qu'on peut accompagner nos clients et que quand nos équipes accompagnent les clients, les clients s'y retrouvent aussi quelque part.
Oui, ça vous reste précieux, ça n'est pas, vous ne devenez pas cynique.
Non.
En la matière. Non, c'est...
Ouais, t'as raison.
On prend un peu de perspective.
Oui.
On se dit 2050. C'est pas dans très longtemps, mais à l'aune de l'âge de Scalen, c'est dans assez longtemps. Le private equity en 2050, c'est quoi ? C'est quoi les grands enjeux ? Ça ressemble à quoi ? Comment vous le percevez ?
Déjà, le marché est en train de se consolider. En fait, on sent qu'il y a une prime à la professionnalisation, il y a une prime à la plateformisation des fonds private equity. Aujourd'hui, entre guillemets, les petits fonds indépendants vont avoir du mal à suivre dans les années à venir parce qu'en fait, il faut quand même avoir une vision un peu globale du métier. C'est ce qu'on perçoit du métier. On sent aujourd'hui que beaucoup de fonds commencent à plateformiser leur... C'est une industrie qui se consolide aussi et qui devient mature. Il ne faut pas oublier qu'elle est jeune. C'est une jeune industrie en France. Il y a 20 ans, les fonds d'investissement n'étaient pas aussi professionnels qu'aujourd'hui. Et on sent qu'il y a une professionnalisation de plus en plus importante. D'ailleurs, sur toute taille de deal, quelque part, on le voit, le métier est de plus en plus exigeant. L'environnement est de plus en plus compétitif. Donc je pense qu'en 2050... Le marché sera bien plus professionnel qu'il est aujourd'hui, bien qu'il soit bien professionnel.
D'ores et déjà.
Oui. D'ores et déjà. C'est un marché qu'il faut, je pense, nourrir, chérir. C'est important parce qu'en fait, c'est le private equity fait naître des très belles ETI et on en a besoin dans notre pays. Quelque part, le marché public a été remplacé par le private equity. Et je pense que ça va continuer à s'accélérer dans ce sens.
Dans ce sens, au point d'avoir des acteurs similaires à ceux du marché public, c'est-à-dire plus de particuliers, ou qu'on ne soit pas exclusivement dans un environnement d'institutionnel ou de family office en termes de LP, d'investisseurs dans les fonds.
On sent bien que en fait, la manne financière publique attire la plupart des fonds de private equity parce qu'effectivement, beaucoup de stratégies commencent à se mettre en place dans ce sens-là. Il y a beaucoup de fonds qui mettent en place des stratégies pour ouvrir le retail.
Ouais.
Notamment, en parallèle de ça, le marché de la banque privée, de la gestion de patrimoine s'est aussi structuré. Et en fait, c'est devenu un marché important qui a besoin de faire une allocation d'actifs aussi sur du fonds de private equity. Les institutionnels, on le sent, on le voit, quand, quand les taux d'intérêt montent, quand réallouent différemment leurs actifs. Donc pour le private equity, c'est clair que la classe retail va devenir prépondérante, en tout cas on le pense. On sent que Blackstone a fait 2-3 annonces récemment.
On les a entendus.
Donc, oui, je pense que le retail va devenir bien plus important, mais quelque part, ça va contribuer à professionnaliser, en fait, à professionnaliser le métier. Et cette idée de plateformisation, on la sent bien, en tout cas.
Ouais, en ligne. Non, mais la tendance générale de fond, si on peut le résumer en une phrase, ce que vient de dire Samuel, c'est que c'est un métier qui en fait, sort de l'ombre, tu vois. Le métier de banquier d'affaires, c'était un truc, c'était très peu de personnes. Ça a été au départ réservé aux grosses entreprises.
Très confidentiel.
Si tu remontes 20 ans en arrière, tu prends un mec qui fait une boîte qui a 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, il sait pas ce que c'est le M&A, il sait pas qu'il peut acheter son concurrent. Il va aller jusqu'au bout de sa vie, jusqu'à la fin de sa boîte, et ensuite, soit ses enfants reprennent, soit même potentiellement, il pourrait ne rien se passer et mettre la clé sous la porte. Donc, les années faisant, et je pense que je vois pas la tendance s'inverser d'ici 2050, c'est un métier, Samuel l'a bien dit, déjà qui se démocratise, on en entend parler, on sait que ça existe, et en plus qui descend dans des strates de plus en plus basses. Aujourd'hui, nous, parfois, on est surpris, hein, on voit des. Il y a beaucoup de dirigeants qui sont maintenant beaucoup plus au courant, beaucoup plus informés. Et c'était un des paris, on l'a pas dit, mais c'était un des paris de départ aussi de Scalen. Et tu vois, je sais même pas si tu te souviens de ça. Non, mais en fait.
Moment confidence.
Ouais, mais parce que c'est ta question qui me fait penser à ça. Je me souviens qu'au début, on allait pitcher les entrepreneurs en leur disant. Vous ne le savez pas, mais vous qui avez une boîte de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous avez la même boîte à outils, vous avez le droit à la même chose, le même niveau de technicité d'opération qu'un mec qui fait 400 millions de chiffre d'affaires. Pareil. On peut tout vous faire pareil. Il n'y a rien qui vous est interdit, mais ça, vous n'en avez aucune idée. Et on s'était basé là-dessus, on s'était dit, tu vois, dans ta vision 2050, on s'était un peu projeté en se disant, ça va arriver à un moment donné. Et on avait pris un petit temps d'avance en se disant, bah, tiens, ça pourrait être aussi un play stratégique. D'aller voir ces dirigeants et de leur dire, attention, nous, on a conseillé, enfin, on a été dans les équipes qui conseillaient des boîtes du CAC, des multinationales, et puis on se dit, waouh, alors ils doivent faire des trucs tellement dingues, tellement techniques, la chance, ils ont accès à une palette d'outils et de typologies d'opérations qui est dingue. Mais en fait, toi aussi, tu peux aller à l'international, tu peux acheter ton concurrent, tu peux vendre une part minoritaire, majoritaire de ta boîte, faire un spin-off, faire un carve-out, ce que tu veux, quoi.
En vrai, c'est possible.
En vrai, c'est possible, bien sûr.
Et on sait faire. Voilà. Et on peut t'accompagner pour ça. Voilà. Dites-moi, qu'est-ce qu'on vous souhaite à vous personnellement et à Scalen en 2024 ? L'année est un peu avancée, il nous reste 9 bons mois. On en fait quoi ?
Une belle entrée dans nos bureaux déjà. On change de bureau, c'est une étape importante. Je pense que ça va faire plaisir aux équipes qui sont un peu les uns sur les autres là, en ce moment. Donc, on veut réussir ce passage qui est une étape sociale importante pour notre boîte. On a besoin de faire grossir les équipes. Samuel en a parlé très rapidement, mais c'est aussi un de nos enjeux. On les fait grossir par le bas, mais aussi on est aussi à l'écoute du marché sur d'autres associations. Quand on s'en parlait juste avant de commencer l'émission, il y a un petit mercato du M&A là en ce moment, très léger, hein, je sais pas si t'en as entendu parler. Mais donc voilà, on est à l'écoute de ce marché qui est un peu en train de redistribuer les cartes. Donc ça, c'est deux objectifs, on va dire stratégiques et de fond qui sont importants pour nous, les recrutements, l'installation dans nos nouveaux bureaux. Et puis après, écoute, pour la partie économique, c'est classique, hein, on veut continuer à délivrer la proposition de valeur qu'on a réalisée jusqu'alors et continuer à croître, ouais, effectivement. C'est beaucoup plus classique, hein, sur la partie deal, on fait le boulot, quoi, c'est tout.
Continuez à faire le boulot que vous aimez.
On est au travail, on fait les choses sérieusement. Et en fait, je pense que ce qu'on peut nous souhaiter, c'est garder cette unité au sein de Scalen, parce qu'en fait, c'est ce qui fait la réussite de Scalen. Cette complémentarité qu'on peut avoir avec Simon, cette complémentarité qu'on a avec nos équipes, faut la travailler. Faut la travailler au quotidien.
La chérir.
L'unité, garder cette unité-là, c'est ce qui fait qu'en fait, on a une qualité de service différenciante des autres. De réussir nos opérations, évidemment, mais ça, tout le monde se souhaite cela, et de continuer à croître de manière intelligente pour tout le monde.
Et à titre personnel, vous avez des choses particulières nécessaires qui vous semble incontournable? On n'a pas le droit de terminer 2024 sans ça.
Oui, bien sûr, tu as raison. Non, écoute, à titre personnel, moi j'ai deux petits-enfants qui grandissent merveilleusement, donc qui continuent à grandir merveilleusement. Et en fait, à titre personnel, tout va bien. On est heureux dans notre travail, donc on est heureux dans nos vies personnelles. On a un tableau et j'ai écrit « Être heureux ». Et je pense que c'est ça qui est important, en fait.
J'ai mon tableau avec toutes mes to-do de la semaine.
Tu l'as, ça.
Je dois faire ça. Et donc que je me change tous les lundis avec mes objectifs priorisés, etc. Et Sam, il est entré dans mon bureau une fois. Il me dit, il te manque un objectif important. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il m'écrit? C'est pas possible. J'ai pensé à tout, vraiment. Tu vois, je me casse la tête. Je me dis, non, j'ai tous les objectifs sur ce disque, c'est ça, là-dessus et tout. Et il m'écrit... être heureux. Et écoute, je ne l'ai jamais effacé, il est sur mon tableau et je ne le touche pas. Donc maintenant, j'efface toujours tout le tableau tous les lundis matins et je recommence. Et ce petit encart être heureux, je me le garde.
J'adore. C'est le moment où on balance. C'est le moment où... quelle personne vous pourriez nous recommander, quelle personne vous souhaiteriez entendre dans les prochains épisodes du podcast Private Equity?
Alors, à titre personnel, moi, je serais très curieux d'entendre Stéphane Dahan, qui a fondé Exelmans, qui est une magnifique success story dans l'industrie.
Superbe.
Et qui est un gars qui a une histoire vraiment incroyable et qui est vraiment intéressant. Donc, je serais curieux de le voir et de l'entendre à ton micro.
Ça me plaît bien.
Il y a un mec que j'aime beaucoup en ce moment, qui s'appelle Vincent Redrado. Et qui a monté un club fantastique qui s'appelle le Digital Native Club, ou groupe. Dans le groupe, il y a le club, ouais. DNG. Et c'est un mec qu'on a côtoyé sur deux dossiers, Les Secrets de Loli et Kabaya, qui est au contact de toutes les petites pépites. Donc moi, je mets toujours mon nez dans son club pour voir qui va être le champion de demain. Et c'est un mec qui est honnêtement... un entrepreneur que j'admire beaucoup et je pense que Sam a la même admiration pour lui, donc on suit son parcours de près et il a une vision très intéressante de son métier et du marché et je pense que tu t'éclaterais aussi à lui poser quelques questions.
Alors Vincent et Stéphane, si vous nous entendez, vous êtes les bienvenus et vous êtes invités.
Et vous serez bien reçus.
J'espère. Merci à tous les deux, quel bel épisode.
Merci à toi.
Merci beaucoup de nous avoir invités.
À très bientôt.
À bientôt.
Si l'épisode vous a plu, partagez-le sur vos réseaux. Abonnez-vous au podcast Private Equity sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et SoundCloud. Notez-nous et n'hésitez pas à nous donner 5 belles étoiles. Pour participer au podcast, contactez Antoine Sage sur LinkedIn.